au café de la mort.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit.
Avec Christian Hervault et Jean-Paul Souzède.
La mort. La mort.
Bonjour, chers amis, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez pour parler encore de la mort. Vous êtes au Café de la Mort, encore une fois, avec Jean-Paul Souzède.
Bonjour.
Qui, je vous le rappelle, est thérapeute de couple, pas spécialement, pas spécialisé dans la mort,
non,
mais ça peut arriver aussi.
Mais il y a des morts du couple aussi.
Voilà, ça peut arriver aussi. Et puis nous faisons partie tous les deux du groupe des services funèbres de l'Église protestante unie tout de même.
C'est ça, nous organisons bénévolement, nous accompagnons en tout cas des familles dans le deuil.
Voilà.
Pour les accompagner dans leur chagrin, pour mettre des mots sur les personnes qu'ils ont perdues, puis trouver les mots d'une célébration qui soit juste. Juste voilà. Dans leur expression spirituelle, juste dans l'expression de leur chagrin. Juste dans l'expression de ce qui se traverse au moment du décès et de la perte d'un être cher.
Et voilà, donc, vous saurez une petite partie de ce qu'on fait. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, ça serait bien d'ailleurs.
Peut-être, voilà, au mois de juin, on mijote là-dessus.
Oui, c'est
peut-être
ça.
Qu'on pourrait amener un ou deux invités avec nous pour parler de ce que nous faisons dans ce... dans ces enterrements pour l'Église protestante. Mais pour aujourd'hui, je voudrais reprendre un petit peu ce que nous avons fait la dernière émission avec Hélène Deron, qui est présidente honoraire de l'association Soins Palliatifs 30 et qui nous a parlé donc longuement des soins palliatifs et de son association, des visites auprès des malades en soins palliatifs. Et donc, nous avons appris beaucoup de choses. Jean-Paul Souzède, est-ce que vous avez appris quelque chose de particulier ou est-ce que ça vous a... amener à des réflexions après notre émission, peut-être, ça a mijoté chez vous ?
Un petit peu, et puis j'ai bien apprécié, ils ont un dépliant qui a comme titre « Être là ». Et je trouve que c'est un beau cri d'engagement, d'engagement bénévole, mais d'engagement affectif aussi, parce que être là, c'est pas si simple. Être là avec des personnes qui sont en fin de vie, qui parfois ne sont plus là, psychiquement ou physiquement, psychiquement en tous les cas, et comment être là avec des personnes qui sont diminuées, sans mettre des mots déplacés, sans mettre des consolations mensongères, sans mettre des illusions totalement vaines. Je trouve que c'est une vraie gageure, c'est un vrai défi en tant qu'accompagnant des personnes en fin de vie de pouvoir être là. C'est vrai pour ces personnes en fin de vie, mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle situation, hein, comment être là avec l'autre.
Oui, je pense que vous connaissez bien ça aussi.
Oui, c'est
en tant que thérapeute, l'écoute, c'est le principal.
Ben, c'est comment être là avec l'autre, effectivement.
Ouais. Donc c'est vrai qu'elle nous a dit un peu comment ça se passait pour les visiteurs, les visiteuses. Elle nous a parlé des différentes relations et peut-être nous pourrions revenir aussi là-dessus, ou plutôt élargir le sujet avec ce que nous pourrions développer au niveau des contraintes un peu de chacun et de chacune. Les contraintes avec les médecins, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe entre le médecin et le malade, entre le médecin et la famille, entre le médecin et les visiteurs, les visiteuses?
Chacun, de ce que j'ai compris, de ce qu'elle nous rapportait, puis de mon expérience et de la vôtre, sans doute Christiane aussi, chacun est dans une contrainte ou dans une mission très spécifique qui ne sont pas toujours conciliables. Par exemple, je pense que la contrainte d'un médecin, selon son serment, selon son engagement professionnel, c'est de faire vivre, c'est en tout cas de soigner et puis d'éviter la souffrance. Quoique, regardons bien qu'il y a quelques années encore, la douleur on ne luttait pas contre la douleur comme aujourd'hui. Il y avait une vision assez christique et catholique. Et ce n'est pas pour jeter la pierre, loin de là, où la souffrance était, entre guillemets, normale, en tous les cas, si ce n'est souhaitable, en tout cas normale, elle pouvait nous rapprocher du Christ. C'était une vision très sacrificielle, doloriste, qui a heureusement été en général dépassée aujourd'hui. Mais il y a effectivement un enjeu pour le médecin qui est d'une part, d'atténuer au maximum la souffrance, et fort heureusement, il y a des moyens très efficaces aujourd'hui, et puis d'autre part, d'aider à continuer à vivre. Mais jusqu'où vivre et qu'est-ce que vivre? Est-ce que vivre, c'est continuer à maintenir un organisme psychique et physique vivant? Mais dans quelles limites et dans quelles contraintes? Je crois que c'est tout le débat de la question. Enfin, c'est tout le débat et c'est toute la question que se posent aujourd'hui les légistes par rapport à la loi sur l'aide à mourir. Et puis la question que se posent les médecins dans les cercles où ils sont en équipe médicale, dans des questions éthiques pour savoir est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue.
Et la question, c'est aussi quelles sont les relations du médecin. Je ne sais pas si vous avez vu ça, vous, particulièrement, parce que vous avez un exemple quand votre fille qui avait un cancer a été aussi dans cette phase des soins palliatifs. Moi, je n'ai pas connu ça de cette façon-là, mais le rapport justement du médecin avec le malade qui va pour lequel le médecin sait qu'il n'y a plus rien à faire. Est-ce que vous avez remarqué, vous, dans la façon de parler, par exemple, du médecin ou des infirmières ou de l'équipe médicale, comment ça se passe à ce moment-là?
Moi, je crois que de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai expérimenté, puis de ce que nous racontait notre intervenante la dernière fois, il y a une qualité d'écoute, d'accompagnement, une qualité d'être là, pour reprendre ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui s'est considérablement développée avec une présence, une qualité de présence du personnel soignant et des médecins qui ne traite pas qu'un corps, mais qui traite une personne, qui la regarde comme telle, qui prennent le temps d'écouter, d'accompagner, de comprendre, d'entendre ce qui se dit, ce qui se vit, ce qui ne se comprend pas. Et je trouve qu'il y a un énorme effort de la part du personnel médical qui est éprouvé. Je veux dire, c'est des situations éprouvantes dans ces moments où on est au bord de la mort. D'accompagner des gens auxquels on s'attache. J'imagine qu'ils peuvent s'y attacher aussi. Et avec ma fille en particulier, qui est décédée maintenant, ça va faire 2 ans, qui était aussi en soins palliatifs à Jeanne Garnier à Paris. Il y avait une qualité de présence, d'accompagnement, du temps de respiration, du temps de silence, du temps pour le toucher, du temps pour la présence qui était vraiment remarquable. Et moi, je félicite toutes ces personnes, pas que le personnel soignant, mais aussi tous les bénévoles qui sont dans des associations, les aumôniers, qui, je crois, ont vraiment développé cette qualité de présence. Et ça, je crois que pour le malade, en fin de vie, c'est très précieux de sentir que quelqu'un lui tient la main. Et quelqu'un est là de façon inconditionnelle et qu'il a du temps à donner.
Je pensais aussi à la façon d'annoncer la mort.
Oui.
La mort prochaine. Est-ce qu'il y a ce temps-là du médecin qui va prévenir un peu la personne est-ce que le malade veut savoir? Est-ce qu'il ne veut pas savoir? Est-ce qu'il laisse faire? Comment est-ce que ça se conjugue, ça?
Ben, je pense qu'on a tous des expériences de médecins maladroits qui annoncent de façon malencontreuse et très brutale un cancer qui ne se guérira pas, en disant « voilà, vous en avez encore pour 3 semaines, pauvre monsieur, pauvre dame ». Alors ça paraît un peu ridicule comme ça, mais j'entends encore des histoires de cet ordre-là, de gens, de médecins qui font leur métier au sens qu'ils annoncent, mais ils annoncent de façon brutale, violente, je dirais, sans trop de considération de l'impact que cela peut avoir sur la personne concernée, sur le malade. Mais ce n'est pas le cas général, fort heureusement. Et il y a une attention, il y a une vigilance pour vérifier de la part du personnel médical qu'est-ce que le malade est capable d'entendre, qu'est-ce qu'il est capable de recevoir à ce moment-là et comment on va lui donner petit à petit l'information qu'il est en mesure de recevoir. Et parfois, certains malades, je crois qu'il faut le dire, ne sont pas en mesure d'entendre que leur fin de vie est proche. Ils ne veulent pas l'entendre, ils ne sont pas capables de l'entendre, peut-être ne sont pas capables de le supporter. Ce n'est pas grave, c'est là où l'écoute inconditionnelle est précieuse, c'est de pouvoir prendre la personne là où elle est et là où elle en est avec ce qu'elle est capable de vivre et de supporter.
Et le médecin avec la famille, alors comment ça se passe?
C'est ça, ce qu'on peut dire, on a regardé tout à l'heure les enjeux et les contraintes du médecin, mais on peut regarder les enjeux et les contraintes de la famille.
Oui.
La famille, moi, je pense que la famille, elle est surtout là pour dire, cette personne qu'on aime, on ne veut pas qu'elle souffre, et puis on ne veut pas qu'elle meure. Et je trouve que c'est toute la question que pose le débat sur la fin de vie, sur la loi sur la fin de vie. C'est jusqu'à quel moment on va accepter que cet être qui fait partie de ma famille, de mon histoire, de mes liens d'attachement précieux, à quel moment je vais accepter que la médecine est peut-être là aussi pour l'aider à mourir, parce que vivre, c'est aussi mourir.
Mais quelquefois, justement, la famille, elle le sait avant. Avant que
le malade ne sache lui-même.
Avant le malade, elle sait qu'il va y avoir un temps peut-être assez court ou que ça peut se terminer un peu plus vite que ce qu'on avait pensé.
Tout à fait.
Donc là, ça, c'est aussi un cheminement de la famille vis-à-vis des médecins qui prennent le temps de parler, ou
exactement,
avec des amis ou des visiteurs, visiteuses aussi, mais aussi comment la famille, par exemple, va se retrouver en face de cette mort prochaine vis-à-vis du mourant.
Oui, ce qui n'est pas simple, parce que c'est comment aussi la famille va l'intégrer et va l'accepter. Et on sait bien qu'il y a des familles qui font des procès à des médecins ou à des chirurgiens parce que la personne est décédée à la suite de l'opération ou à la suite d'un traitement qui n'a pas fonctionné. Et comme si la médecine était toute puissante et allait nous sauver de toute défaillance et de toute fin de vie, enfin de toute mort. Je crois qu'il faut aussi qu'en tant que famille, on accepte la finitude, ce qui est tout notre enjeu de vie, notre enjeu existentiel à chacun, que nous sommes tous mortels. On a beau développer le transhumanisme, non, ça ne nous sauvera pas de la mort. On a beau croire en la résurrection ou en d'autres croyances, c'est très bien, mais ça ne nous sauvera pas de la mort. Voilà, nous n'y échapperons pas. Et c'est comment aussi on accepte, et de la part du personnel soignant, et de la part de la médecine, que nous sommes faillibles, nous sommes limités, et qu'à un moment, nous allons mourir. Et je crois que c'est important de ne pas en vouloir au corps médical, qu'il ne puisse pas sauver cette personne dont on aimerait tellement qu'elle puisse prolonger ses jours. Il y a des erreurs médicales, certes. Il y a certainement des excès de soins ou des pas assez de soins. Mais ce n'est pas la majorité, loin de là. C'est comment nous allons accepter, et de la part du corps médical qui fait son possible, et de notre part à nous en tant qu'aimant de ces personnes qui décèdent, que la fin de vie est là. Et je crois que c'est un moment, ça va être plus important d'accueillir cette fin de vie, de pouvoir l'accompagner, que de vouloir absolument lutter contre la finitude et contre la mort.
Mmh. Je crois que l'acceptation, effectivement, de la personne, de la famille, aide la personne.
Je me souviens de ma mère
dans sa fin de vie.
Oui,
la famille est apaisée, entre guillemets, je pense que ça aide la personne qui est dans son lit de mourir.
Je me souviens de ma mère qui est sur son lit de mort, qui n'était pas son lit de mort, qui était son lit de malade, regarde l'infirmière droit dans les yeux, lui dit « je vais mourir », questionnant. Et l'infirmière n'a pas répondu. Elle lui a pas dit oui, elle lui a pas dit non. Et je me suis dit, je trouve que c'est difficile pour un personnel soignant de dire à la personne qui est là, alitée, oui, vous allez mourir. Alors que je pense qu'à cette époque, pour ma mère, à ce moment-là, ça aurait été très soulageant de se dire, il faut que j'arrête de lutter, quoi. Il faut que j'arrête de croire que demain j'irai mieux. Demain j'irai peut-être mieux, mais ça ne serait que de très passager parce que, effectivement, je vais mourir. Et je trouve que de pouvoir reconnaître ça, ce n'est pas un signe de défaite, ce n'est pas un signe d'impuissance ou d'échec, loin de là, c'est aussi une manière d'accompagner la vie. Parce que nous sommes vivants, nous sommes mortels.
Eh bien, puisque nous parlons des mamans, ce n'est pas rien que de
non.
voir mourir sa maman, ou de, si on ne la voit pas mourir, d'aller à son enterrement. Eh bien, je vous propose d'écouter Zaz, qui a une chanson qui dit « Dans le silence de maman ». Donc, nous allons l'écouter, puis nous revenons juste après pour continuer notre conversation. Jean-Paul Sauzède.
Le vent se lève sur la maison. Et je respire ton prénom. Les rideaux volent au gré du vent, le vieux parquet craque doucement. Je cherche encore tes mains croisées sur la tasse ébréchée posée. Rien n'a changé dans le décor, l'horloge ancienne bat encore. Je vois tes gestes du matin, suspendus là entre mes mains. Il n'y a plus de bruit dans la cuisine, mais la douceur de ton parfum se dessine. Je te devine, je te ressens dans le silence de maman. C'est une absence qui prend l'espace, une lumière que rien n'efface. Je berce l'écho du temps qui passe et je t'entends à chaque instant dans le silence de maman. Foulard rouge sur le fauteuil soulage mes peines et mon deuil. Je n'ose pas ranger tes affaires, elles sont ma boussole, mon repère. Tu as laissé dans ce salon la chaleur de tes grands pardons. Un amour pur qui ne meurt pas, qui guide chacun de mes tas. Il n'y a plus tes pas sur la colline, mais la force de ton ombre m'enracine. Je te devine, je te ressens dans le silence de maman. C'est une absence qui prend l'espace, une lumière que rien n'efface. Je berce l'écho du temps qui passe et je t'entends à chaque instant dans le silence de maman. Que l'absence est une prison, mais tu chantes encore dans la maison. Une berceuse sans la moindre note, où notre amour à jamais flotte. Tu m'as appris à écouter les anges quand ils sont fatigués. Je te devine, je te ressens dans le silence de maman. C'est-tu l'absence qui prend l'espace, une lumière que rien n'efface. Je perce l'écho du temps qui passe et je t'entends chaque instant dans le silence de ma main. Et je t'entends infiniment dans le silence de ma main.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2. Et puis, vous pouvez nous écouter en DAB+, vous pouvez aussi écouter tous nos podcasts. Et il y en a. Donc, réjouissez-vous et allez sur radioallianceplus.fr. Alors, avec Jean-Paul Sauzède, nous continuons à examiner un peu la fin de vie, les soins palliatifs, la responsabilité de l'équipe médicale devant la souffrance des patients, devant les questions qui se posent de la fin de vie. Est-ce qu'il y a des conversations autour de justement ce choix que peut-être on doit faire, soit intérieur, soit peut-être un choix de décider de mourir peut-être avant que ça soit complètement terminé. Est-ce qu'il y a comme ça des remarques que vous avez eues, soit de vous-même, soit d'autres personnes, soit dans le cadre peut-être des personnes que vous avez accompagnées dans les enterrements. Est-ce qu'il y a eu ces enjeux-là, ces questions-là déjà? Est-ce que vous avez entendu des questions entre, je dirais, le malade et le personnel soignant ou la famille?
Oui, j'en ai plusieurs. J'en ai une qui me vient, qui est comme s'il fallait que chacun nous ayant une mort propre. C'est-à-dire une mort sans douleur, rapide, comme s'il ne fallait pas s'en apercevoir que l'on meurt. Ça, mourir dans son sommeil, ça devient vraiment le nirvana. Donc, il ne faudrait pas s'en apercevoir. Et donc sans douleur, sans diminution intellectuelle, physique, psychique. Or, je crois que c'est quelque chose qui me paraît pas très juste. C'est comme s'il fallait, à notre naissance, être déjà adulte, sans avoir toute la progression de l'enfant qui bégaye, qui tombe, qui pleure, qui grandit, qui rate, qui essaye, qui réussit, qui fait des échecs, etc. Et je crois que la mort est à l'image, plus ramassée certainement et fort heureusement, de notre vie qui n'est pas toujours dans un aspect glorieux et merveilleux, mais qui peut être aussi dans un aspect diminué, rétréci, restreint. Et comment nous allons accepter que vieillir et être proche de la mort, c'est accepter cette réduction de vie, cette limitation de notre existence. Voilà, ça c'est un premier point qui me paraît important, comme si aujourd'hui il y avait une sorte de... peut-être lié à notre société occidentale où il faut toujours être performant, beau, jeune, sportif et bien portant. C'est pas facile d'accepter que vieillir, c'est une réduction. C'est une réduction de notre espace géographique. On se déplace moins facilement, de notre espace mental. On pense moins vite, moins bien, de notre espace psychique. Voilà, on perd des idées, on parle moins bien, on peut faire des égarements. Et pourtant, on est encore vivant. Et jusqu'où suis-je encore vivant? Et qu'est-ce que vivre? Je trouve que ça, c'est toujours une question qui reste pour moi très ouverte. Il y a une deuxième thématique que je trouve intéressante aujourd'hui, c'est notre rapport au suicide. On est dans une société occidentale où on a banni le suicide, sans doute lié à une théologie occidentale judéo-chrétienne qui est « Dieu a donné la vie, donc on ne peut pas la prendre par soi-même ». Il est important de la respecter. Alors qu'il y a des cultures orientales où le suicide pourrait être un acte de fierté, de liberté aussi, de responsabilité à l'égard de sa propre existence. Et nous avons un rapport au suicide qui est très, 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 très condamnable, enfin très injurieux, comme une blessure faite à l'existence qui est un cadeau de Dieu, et comme si on n'avait pas le droit de mettre fin à sa vie. Et je trouve que là-dessus, on a peut-être apprendre quelque chose d'une pensée orientale, et pas que les Japonais, hein, mais et à regarder comment nous sommes aussi responsables de notre existence et jusqu'où je suis prêt à la mener. Moi, je suis assez admiratif de Monterland, qui était peut-être un peu dépressif, hein, mais qui à un moment, se sentant vieillir sans, a décidé de mettre fin à sa vie. Je me dis, ah, on l'a beaucoup critiqué, beaucoup condamné... Je me dis, ouais, c'est quand même un acte de liberté. Il a usé de sa propre vie et de sa propre liberté, voilà, pour mettre fin à ses jours. Je ne dis pas que c'est un modèle et je ne fais pas l'apanage ou l'exhortation, l'apologie du suicide. Je dis juste que ça mérite d'être questionné, d'être interrogé.
C'est-à-dire que c'est vrai que, en tout cas dans l'Église catholique, pendant très longtemps, la personne qui se suicidait, qui décidait de mettre fin à ses jours de quelque manière que ce soit, elle n'avait pas droit à un enterrement
c'est
non
ça,
plus.
Hein. C'est ça.
Et la famille était vraiment rejetée. C'était à Marie, la femme se trouvait... voilà.
Oui, c'était très
donc, honteux. Se trouvait vraiment rejetée et pas aidée du tout. Et donc, n'avait même plus le droit d'aller peut-être à la messe, etc. Si elle le faisait avant. Donc, il y a eu vraiment cette chape de plomb quand même pendant longtemps. Je pense qu'on s'en est quand même un peu libéré. Mais certainement dans certaines familles, en tout cas, ça reste encore un peu
ça reste très prégnant dans notre culture. Même je dirais, c'est pas que lié à l'Église catholique qui a peut-être imprégné notre culture occidentale judéo-chrétienne, mais ça reste encore quelque chose de condamnable, de condamné, de se suicider, de faire une tentative de suicide. Étant entendu qu'il peut y avoir des tentatives de suicide liées à des dépressions, à des états dépressifs, on ne parle pas de cela. J'entends bien que c'est au contraire à secourir et à aider, et que toutes les tentatives de suicide ne sont pas légitimes, merveilleuses, ou des actes de liberté, de responsabilité, loin de là. Voilà. Et puis il y a peut-être une autre question que je trouve intéressante autour de notre mort, ou de ce qui se pose aujourd'hui, de ce qui s'interroge aujourd'hui. D'une part, c'est comment avoir une bonne mort, comme s'il y avait une bonne mort. Je m'interroge ça. D'autre part, la question autour du suicide, est-ce que c'est légitime encore notre condamnation, ce jugement, ce regard négatif qu'on a autour du suicide? Et puis, je trouve qu'il y a un troisième élément qui est comme si avant de mourir, il fallait avoir tout accompli. Et je me dis, mais c'est quoi d'accomplir, de tout accomplir de sa vie, comme si il y avait un moment où je me dis, ben, ça y est, j'ai rempli ma mission. Ah oui, quelle est la mission que j'ai à accomplir? Est-ce que je suis là avec une mission particulière? Est-ce qu'il y a un moment où je peux me dire, moi je suis un peu dans cette croyance-là, mais je m'interroge moi-même en me disant, tiens, comme si aujourd'hui je vivais du bonus, comme si le temps qui m'est accordé à mon âge, c'était un plus auquel je n'avais pas initialement droit, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire en termes familial, d'enfant, de vie professionnelle, de service dans le monde. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il y a un temps qui nous est accordé c'est quoi cette idée autour du temps où ça serait trop tôt ou trop tard, voilà. Je me souviens quand ma fille est décédée, une amie m'a dit, oh, bah, ta fille, elle a eu sa vie. Parce qu'elle était femme, elle a été mère, elle a été fille, elle a été professionnelle, elle était instite. Oui, c'est vrai. Et nulle part, il est écrit que nous devons mourir à 95 ans, épuisés et gorgés de jours. Donc, dernièrement, là, j'entendais l'histoire d'une petite fille qui est morte à 6 jours. Je me dis, ah, oh, ça c'est violent, hein. Mais peut-être que c'était ça sa vie. Pourquoi est-ce que nous avons l'idée que il nous faut tous mourir vieux?
Ouais, ouais.
C'est écrit nulle part.
Il y a la question de la bonne vie et de la bonne mort. Par exemple, moi j'ai souvent entendu les personnes, bah, d'ailleurs à n'importe quel âge, mais des personnes de la famille dire « il a eu une bonne vie » ou « elle a eu une bonne vie », c'est-à-dire une vie remplie, une vie qui l'a satisfait. Et je pense que ça rejoint votre réflexion là. Peut-être c'est quelque chose qui fait du bien d'ailleurs à la famille aussi, et à la personne de s'entendre dire vers la fin de sa vie, bah, tu as fait des bonnes choses pour moi, voilà, en tant que par exemple une maman avec son enfant, ou ces échanges là où le mari et la femme, et donc tu as été avec moi, et c'est pour moi c'était une bonne vie avec toi, tu as eu une bonne vie. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est vrai, de réconfortant et d'intéressant, et de même que d'avoir une bonne mort. C'est pas se dire ben la mort c'est facile, c'est avoir une mort sans trop de souffrance. Et les personnes quelquefois qui disent ben elle est morte dans son sommeil, donc elle a pas trop souffert, c'est réconfortant pour la famille. Et ça je trouve assez juste quand même de qu'on peut entendre ça, de dire ben voilà, mes parents par exemple, ou mon enfant n'a pas trop souffert, a bénéficié par exemple des soins palliatifs, a eu des personnes autour d'elle qui ont vraiment été aux petits soins pour elle, l'ont écoutée, l'ont fait du bien jusqu'à la fin. C'est bon pour tout le monde, je dirais ça. C'est quelque chose que l'on ressent, et que voilà, c'était juste une petite réflexion supplémentaire par rapport à ce que vous nous avez dit. Et puis, eh bien, je pense que la prochaine fois, nous pourrons parler de un peu plus en détail de cette loi sur le suicide assisté, l'aide à mourir. Et peut-être que nous aurons un invité, on va voir, et que nous aurons un peu plus de matière à élargir notre propos que maintenant. Nous avons simplement un petit peu abordé cette question-là. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, juste pour clore.
Jean-Paul Sauzet,
oui, merci.
Juste pour terminer,
deux points. Très rapidement, le premier, c'est que dans toutes ces situations autour de l'accompagnement du mourant, il y a deux éléments qui me paraissaient fondateurs. C'est comment je vais accueillir l'autre de façon inconditionnelle. Qu'il soit vieux, qu'il sente mauvais, qu'il perde la tête, qu'il soit difficilement dans sa marche ou autre. Comment je vais l'accueillir, parce que c'est une personne et il restera une personne jusqu'au dernier jour et de façon inconditionnelle. Et puis la deuxième, c'est justement lié à cet accueil inconditionnel, ce qui n'est pas simple, je trouve. C'est garder la main, lui tenir la main et rester dans ce contact avec l'autre où je ne te lâche pas, et faire en sorte que le mourant aussi ne se sente pas abandonné et qu'il sente qu'un autre est là avec lui pour partager ces moments qui peut-être sont les derniers.
C'est une très bonne fin. Pas mortel du tout.
Non, elle n'est pas mortelle.
Même si nous sommes au Café de la Mort, le prochain Café Mortel,
c'est... Le prochain, c'est mardi prochain, c'est le 17 mai, toujours à l'instant T, rue Racine à Nîmes,
voilà.
À 18h30.
Donc on vous y attend, chers auditeurs et chères auditrices. À très bientôt, ou sinon, au mois prochain. Au revoir, Jean-Paul Sauzet.
Au revoir, Christiane, merci.
la mort.